Que le nom du Seigneur soit béni. C'est avec beaucoup, beaucoup de cœur que je veux partager ce sujet avec vous ce matin. Ce sujet m'a été littéralement imposé et je vous prie de bien écouter. La parole de Dieu, l'éternité, notre éternité et l'éternité des pécheurs, c'est sérieux. Et si je me suis autorisé à apporter le conseil de Dieu avant la Sainte Cène, vous comprendrez pourquoi. Je pense que c'est absolument nécessaire. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais je le dis quand même. J'ai eu 12 pages de notes, ça m'est venu en une heure. Et je sais que plusieurs ont vraiment besoin d'entendre ces choses. Je m'adresse bien sûr à tous ceux qui ne sont pas convertis, aux enfants de chrétiens qui sont là, sur l'estrade, il y en a plusieurs qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager. Et je peux vous dire que ce sujet sur l'enfer est un sujet qui me préoccupe et vous allez comprendre pourquoi. La façon dont certainement je vais vous le présenter fera que vous comprendrez mieux, et j'espère surtout les chrétiens, que nous comprendrons mieux l'importance de tout faire pour que des âmes soient sauvées. Nous allons faire pas mal de lectures. Je voudrais que nous les fassions, vraiment. Je voudrais que nous les fassions ensemble. J'espère que vous avez votre Bible. Je voudrais que nous réalisions l'importance de lire la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne vont plus bien parce qu'ils ne veillent plus sur leur âme. Et le résultat est terrible. Par exemple, dans Luc 21, le Seigneur Jésus répond à des questions qui lui ont été posées sur son avènement et sur son retour, qui ne sont pas du tout la même chose entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus après la grande tribulation. C'est deux choses bien différentes. Mais lorsqu'il parle aux apôtres, il leur dit ceci, Luc 21, verset 11. On peut lire le verset 10 ou même le verset 9. Pour ceux qui ne lisent jamais la Bible, lisez avec moi. « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, de grands tremblements de terre. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, s'il vous plaît, et au verset 12, c'est l'ouverture des sceaux. Là, c'est le sixième sceau, des sceaux qui seront suivis des sept trompettes, qui seront suivis après des coupes de la colère auxquelles, bien sûr, n'assistera pas l'Église. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. « Je regardais, et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» C'est une question, c'est Jésus qui la pose. Dans l'Apocalypse, ou d'ailleurs dans toute la Bible, c'est Jésus qui parle. Le jour, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Je voudrais lire notre texte avec vous dans Ésaïe 61. Ésaïe résume le ministère de Jésus-Christ. Dans ce chapitre 61, Jésus a repris cette prophétie, s'est arrêté à un certain moment donné au verset 2. Nous lirons le verset 2 en entier. Jésus, quand il la répète dans la synagogue de Nazareth, il s'arrête à la moitié du verset. Je vais vous dire pourquoi. Ésaïe 61, verset 1er. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jésus arrêtait sa lecture là, parce que c'est ce qu'il venait faire. Il venait apporter une année de grâce. Et nous sommes dans la fin de cette année de la grâce. Suivi, virgule, d'un jour de vengeance de notre Dieu, ça s'appelle la colère de l'agneau. C'est un sujet absolument sérieux, qu'on ne peut pas aborder avec légèreté ou avec dureté. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder avec indifférence. C'est un sujet qu'on ne pourrait presque aborder qu'avec des larmes. Tellement l'affaire est sévère. Un autre texte, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, cette épître nous parle du retour de Christ, l'épître entière. Et nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 9, c'est bien ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Voilà, j'espère que vous avez tous votre Bible. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce texte nous dit qu'une ruine soudaine surprendra le monde entier. Vous avez vu ce qui se passe quand un tremblement de terre localisé frappe une île, ce que ça peut provoquer, et là ça frappera la terre entière. Dieu, mes frères et sœurs, ne nous a pas destinés à la colère. J'ai pris ce texte de 1 Thessaloniciens parce que il nous est parlé au verset 3 de la ruine soudaine qui va être précédée en fin de compte comme exactement une femme qui accouche. Il est parlé des douleurs de l'enfantement. Les contractions sont toutes les demi-heures, et puis après elles s'accélèrent jusqu'à l'accouchement. Dieu compare l'avènement à cette épreuve que la femme peut subir lorsqu'elle va accoucher. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais nous, mes frères et sœurs, je terminerai bien sûr avec une exhortation pour l'Église. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à cause du péché. Le problème, c'est que les gens contestent avec Dieu. Les gens s'énervent contre Dieu. Les gens blasphémeront. Et après, ça changera encore moins. Quand l'Église sera enlevée, les gens continueront à blasphémer, à ne pas se repentir lorsque Dieu interviendra. De toute façon, que Dieu soit intervenu d'une façon ou d'une autre, les hommes ont toujours contesté avec lui. Que ce soit, vous avez vu comment ça s'est passé à la dispensation de la conscience? Vous avez vu? Vous avez vu au début, comment Adam et Ève ont traité la parole de Dieu, et ainsi de suite. La Bible dit dans Éphésiens 1 que nous étions des enfants de colère. À cause du péché, nous étions tous voués à la colère. Mais Dieu dit, Romains 5, 9 à 10, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Béni soit le nom du Seigneur. Et je voudrais que les croyants, nous soyons mais remplis de reconnaissance, de savoir que si nous sommes sanctifiés, si nous marchons dans l'obéissance, si nous marchons dans la persévérance, si nous restons dans la sainteté, nous sommes sauvés de la colère. Béni soit le fait que Dieu soit lent à la colère. Vous pouvez dire merci Seigneur. Que Dieu soit lent à la colère. Mais la colère, elle va finir par atteindre notre monde. C'est écrit dans les Thessaloniciens, justement. Il est dit à un Thessalonicien de 16, la colère a fini par les atteindre. Vous savez, à force de jouer avec la patience de Dieu, comme du temps de Noé, ils ont joué avec la patience de Dieu. C'est écrit que Dieu a prolongé sa patience du temps de Noé. Ils ont ricané des choses de Dieu. Ils se sont moqués. Et combien de personnes écouteront cette prédication et se moqueront? Mais ça, c'est pas mon affaire. Moi, je vous le dis, mon affaire, c'est de prêcher ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et à la place de vous moquer, vous ferez bien d'écouter une deuxième question. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est une question que Jean-Baptiste pose à des gens qui vont se faire baptiser, qui sont superstitieux. Ils veulent prendre le baptême pour faire comme tout le monde. Ils vont prendre le baptême peut-être parce qu'ils pensent que le baptême va les bénir. Il y a ces gens, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Ce qui prouve qu'on peut être religieux sans se convertir et sans se repentir. Et ça, c'est un drame. La Bible nous parle de la grâce de Dieu, mais la Bible nous parle aussi de la colère. La Bible nous parle de son amour, mais la Bible nous parle aussi de son jugement. La Bible nous parle du ciel, et la Bible nous parle aussi de l'enfer. La grâce, elle a commencé. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, elle a commencé. Et elle se terminera, cette année de grâce, à l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura sur la terre une période qui est appelée la grande tribulation. Faites une autre lecture avec moi dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er. Dans ce texte, il nous est parlé, voyez, enfin on va lire à partir du verset 5. 2 Thessaloniciens 1, 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car, et tenez bien cette expression, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification de ce mot, c'est l'abandon de la foi. Je le résume bien sûr, mais c'est l'abandon de la foi. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, je ne sais pas si vous réalisez, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. La suite nous dit qu'en fin de compte, toutes ces choses sont réservées aux gens qui ne veulent pas de la vérité, qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ce texte, si vous le relisez, nous parle de grâce, de paix et même de gloire. Mais ce texte nous parle aussi du jugement de Dieu, de flamme de feu, de ruine éternelle, de châtiment. Il faut seulement que celui qui retient l'action puissante de l'antéchrist ou de l'antichrist soit enlevé. Et ce qui empêche la manifestation puissante de l'antichrist de se manifester sur la terre, c'est la présence de l'Église et du Saint-Esprit dans l'Église. Et lorsque l'Église sera enlevée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qui se passe déjà, alors que l'Église est sur la terre, que la grâce de Dieu est sur la terre, que l'amour de Dieu est sur la terre, que la patience de Dieu est sur la terre, que le Saint-Esprit est sur la terre, quand toutes ces choses auront disparu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, lisez les coupes de la colère dans l'Apocalypse et vous verrez qui fera vraiment pas bon vivre sur la terre, et que je comprends pourquoi il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous ceux qui auront entendu des prédications comme celle-ci, qui auront lu la Bible et qui n'auront pas pris le temps de songer à leur éternité. Il faut seulement que celui qui soit là ait disparu. Mes frères et sœurs, il faut que nous retenions ces choses. Regardez au chapitre 2, là toujours, au verset 15. Ben, regardez, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Retenons, mes frères et sœurs, ces instructions. Il y a beaucoup de chrétiens, écoutez, quand même, en tant que pasteur, je suis peut-être un des mieux placés. Je vois bien dans mes entretiens qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont aucune communion avec Dieu. Vous êtes en danger. Comment me faut-il vous le dire? Je dois vous le dire avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de larmes. Mais mes frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte. Le Seigneur, il est à la porte. Les jeunes qui n'êtes pas convertis, vous qui n'allez pas prendre le pain et le vin tout à l'heure, mais je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Repentez-vous si vous ne le faites pas dans un cadre où la piété s'exerce, où l'Esprit de Dieu agit. Vous le ferez pas. Vous endurcirez votre cœur. Et quand l'Église sera enlevée, vous pleurerez et vous grincerez des dents et vous saurez que la colère de Dieu va venir sur la terre. Et loin de moi la pensée de traiter un sujet aussi grave, avec mépris, avec dureté. Je le répète, j'ai le cœur rempli de larmes parce que je sais que ça va arriver. Je le sais. Le Seigneur est proche, il est à la porte. C'est écrit du temps de l'apôtre, la fin de toute chose est proche. Et l'Église doit veiller, comme jamais elle n'a veillé. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Nous devrions être passionnés pour la prière. Nous devrions être plus nombreux le mardi soir que le dimanche matin. Je le dis pas, c'est pas une question de nombre. Si je dis mal les choses, ne le prenez pas mal, je vous en supplie. Je vous en supplie. N'interprétez pas mal ce que je vais vous dire ce matin. C'est trop grave pour qu'on s'autorise à interpréter mal la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, l'Église devrait penser qu'à une chose. Prier pour le salut des âmes, pour le retour des fils prodigues. Bien sûr que nous sommes affligés par ce qui se passe à Haïti, mais ce qui se passe au niveau spirituel, mais c'est plus grave. Mais on ne le voit pas. Nous, on est affligés parce qu'on voit des choses qui font mal au cœur. Bien sûr que c'est terrible, ce tremblement de terre. Mais moi, je peux vous dire que le tremblement spirituel de terre, il y a longtemps qu'il existe. Et dans notre nation, tout est ébranlé, tout est renversé, tout est par terre. Et tout le monde meurt. Mais ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et l'Église ne réalise pas. L'Église est là. Nous sommes bien sûr que c'est merveilleux d'avoir sa maison, ses économies, sa voiture et ses habits. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il nous donne. C'est clair. Dieu nous a donné toutes choses afin que nous en jouissions. Et il faut bénir Dieu pour ce qu'il nous donne. Et si vous avez à manger à midi, bénissez-le de tout votre cœur. Mais mes frères et sœurs, l'Église, à partir du moment justement où elle est comblée de toutes ses grâces, elle devrait se préoccuper. Le grand problème, c'est que le diable a le pouvoir de nous aveugler lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et je voudrais lire juste deux ou trois versets, trois textes qui nous montrent que ce que nous ne voyons pas, ça c'est peut-être notre faute à nous. Enfin, quoi que, on a tous notre Bible quand même. Regardez avec moi. Colossiens chapitre 1er, juste avant les Thessaloniciens. Regardez dans ce livre. Je voudrais vous parler de trois textes qui nous parlent du combat spirituel. Mes frères et sœurs, il y a un combat dans l'invisible. Nous ne le voyons pas. Et heureusement, si nous voyons ce qui se passe dans l'invisible, je pense qu'on serait tous effrayés. Tous effrayés. Il y a vraiment un combat, vraiment dans le ciel. On l'a chanté. J'ai soif de ta présence. Des ennemis dans l'ombre rôdent tout autour de moi. On chante des trucs qu'on ne réalise pas. Colossiens chapitre 1 verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Regardez bien, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Un petit peu plus en avant, les Éphésiens, dans deux, trois livres en arrière, il y a les Éphésiens. Dans les Éphésiens, la conclusion de cette épître pour l'Église, qui est le corps de Christ, nous parle d'un combat à mener. Un combat dans l'invisible, c'est pareil. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et tant qu'on luttera contre la chair et le sang, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Si vous luttez contre les gens, et lui m'a dit ceci, et elle m'a pas dit bonjour, et l'autre il m'a fait la tête. Ça c'est le combat contre la chair et le sang. c'est peut-être même pas vrai, c'est des idées que l'on se fait, que de combats charnels qui font que beaucoup de gens ne sont pas là ce matin, ils devraient y être. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces autorités, ce sont des anges qui ont choisi Satan lors de sa chute. Dieu n'a pas créé des démons. Ce sont des anges qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion contre Dieu. Car de la même manière que Dieu nous a créés libres, les anges, il les a créés libres de choisir le bien ou de choisir le mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ou parce que nous, pasteurs, nous ne sommes pas assez sérieux avec l'enseignement. Mais regardez dans Daniel, dans le prophète Daniel, un des derniers livres des grands prophètes de l'Ancien Testament, dans Daniel, regardez, Daniel chapitre 9, verset 2. Daniel est un homme de Dieu, il lit la parole de Dieu, et il voit que Dieu veut faire quelque chose. Mes frères et sœurs, si nous lisions vraiment avec notre cœur la parole, je crois que nous réaliserions qu'avant l'enlèvement, Dieu veut faire quelque chose dans nos villes, sauver des âmes. Daniel chapitre 9, mais tant que l'église ne priera pas, moi je vous le dis, hier soir je lisais un livre sur le réveil de M. Godefort, un homme qui a mené le réveil en Mandchourie, en Chine, il a dit on ne peut rien faire tant qu'une église ne prie pas. Tant qu'une église ne prie pas, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Les démons ne peuvent pas être chassés, etc. Daniel 9, 2, regardez, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Verset 3, regardez ce qu'il fait. Il ne dit pas, oh, mais moi je suis en déportation, écoute, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il fait? Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voilà la réaction d'un homme. Et si nous avions vraiment le fardeau de l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu se fasse, nous ne dirions pas, eh bien, l'œuvre de Dieu elle repose sur une élite qui d'ailleurs n'existe pas. L'œuvre de Dieu, elle repose sur tous les frères et sœurs de l'Église, qui ont à cœur le salut des âmes, qui ont à cœur l'édification de l'Église. Cet homme, il était âgé pourtant, et je peux vous dire, à cette époque-là. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas fait autrement, en voyant la prophétie de se mettre à jeûner et de se mettre à prier. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Sois attentif, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends-la. Et Dieu va lui révéler l'histoire de l'Église en fin de compte. Chapitre 10, versets 2 et 3. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais pas de mes délicats, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Versets 11 à 13. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. C'est ça encore le problème, c'est qu'on n'est pas attentif. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Regardez ça. Un homme qui parle à Dieu de telle sorte que ça fait déplacer l'ange Gabriel. Le chef, regardez bien, le combat dans l'invisible. On ne voit pas ça. Au-dessus de Toulouse, au-dessus de la France, au-dessus de chaque pays, de chaque ville, il y a des dominations. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Vous avez vu tout le temps qu'il a jeûné. 21 jours. Mais voici, Michaël, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Regardez verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que le Seigneur, mon Seigneur, parle car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu maintenant pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Amen. Daniel nous enseigne dans son livre que lorsqu'on jeûne, il y a un combat spirituel. Lorsque l'on prie, il y a dans le ciel des démons qui se battent contre les anges. C'est un sujet difficile. Et quand l'Église ne prie pas, écoutez, je vais mal vous le dire, quand l'Église ne prie pas, le diable y gagne. Voilà, c'est pas compliqué. Je le dis très mal certainement, mais c'est la vérité. Quand l'Église ne prie pas, l'adversaire, il se marre. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on voudra. L'ennemi, il doit reculer. Mes frères et sœurs, ce que je vous le dis, Je vous le dis peut-être mal, mais je vous le dis d'abord à l'église, et puis à ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. Vous qui attendez, je ne sais pas ce que vous attendez. Vous attendez l'enlèvement de l'église pour dire, mais c'était vrai cette affaire, c'était pas une blague, c'était beaucoup plus sérieux. Je vous le répète, quand l'église sera enlevée, il fera peur sur la terre. Lisez l'Apocalypse. Moi, rien que pour ça. Moi, j'ai tellement peur de l'enfer que même, je crois, je dis une bêtise là, mais même si je crois que si je n'aimais plus Jésus, j'y obéirai quand même. Tellement je ne veux pas aller à l'enfer. Parce que quand même, on va voir. J'arrive, parce que là, je suis dans la colère. Hein. Enfin, pas moi. Dans le sujet de la colère. Mais on va rentrer dans le sujet de l'enfer. C'est mon introduction, ça. C'est juste l'introduction. Il y a un combat dans l'invisible. Ce combat n'a qu'un but. Le diable fait tout. Lui, il ne se repose pas. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et en plus, il nous a dit à un moment donné qu'il va descendre, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a pas de temps. Ce combat n'a qu'un but, que l'Église dorme, que l'Église s'assoupisse, que nous ne combattions plus, que nous soyons tellement occupés par les choses de la terre, on n'a plus de temps pour Dieu. Oh Seigneur, je viendrai le dimanche quand même t'honorer. Et c'est vrai que c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est un état d'esprit. Ce combat, il n'a qu'un but, empêcher l'Église de prier. Le diable, il veut qu'on... Et si on prie, qu'on ne croit pas à nos prières. Et si on croit à nos prières, qu'on arrête de prier de toute façon. Mes frères et sœurs, Dieu veut que l'Église prie. Jésus n'a donné qu'un nom à son Église, une maison de prière. L'épître de Jude, que nous avons abordé il y a 15 jours sur ce sujet, nous parle de l'importance de combattre le bon combat de la foi. Mais regardez avec moi, juste avant l'Apocalypse. Regardez cette épître. Cette épître, elle est très 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 sévère. C'est avant l'Apocalypse en plus. Il y a tout un enseignement. C'est une épître qui porte dans ma Bible le combat de la foi. L'Église, elle doit combattre. C'est l'avant-dernier livre de la Bible. C'est un enseignement sur le combat de la foi. Il nous est dit au verset 23 ce que les chrétiens doivent faire. Il est dit, voyez, il est parlé de discipline au verset 22 et au verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Vous avez vu ? Sauvez-les en les arrachant du feu. Vous avez vu tous les avions que la France, l'Europe, les États-Unis dépêchent en Haïti pour les arracher. Mais dites-moi, sauver les corps de la mort qui se prononce, c'est bien, il faut le faire, que Dieu soit béni pour tout ce qui est fait humainement. Mais est-ce que vous avez compris que arracher les âmes du feu éternel, c'est beaucoup plus sérieux? C'est beaucoup plus grave? Et c'est ça que l'Église ne réalise pas. On est là et on va verser des larmes et c'est normal. Ne me prenez pas mal ce que je dis. Mais on ne devrait pas pleurer pour les gens qui, dans cette ville, cette semaine, vont partir en enfer? Est-ce que nous sommes conscients, frères et sœurs? Mais mes frères et sœurs, moi je vous le dis parce qu'il faut que je vous le dise. J'ai pas envie d'être triste pendant 3 jours pour ne pas vous avoir dit et avoir à demander pardon à Dieu pendant 15 jours pour ne pas y avoir obéi. Je vous assure que c'est pas moi qui vous parle, mes frères et sœurs. Le grand jour, regardez ce grand jour, verset 6 de cette épître. Cette épître nous parle de la grâce, de l'amour, de la gloire, mais ça vous le savez. Mais regardez, 3 fois dans ce texte, au verset 6, parce que les incrédules, regardez, ils réservent pour le jugement du grand jour. Ah, ça c'est un grand jour, ça c'est clair. Enchaînés, éternellement, par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre, c'est des villes pétries d'homosexualité, de débauche, et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à la débauche et à des vices contre nature, sont données, en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Verset 13, il parle des chrétiens qui ne vont pas bien. Parce qu'il y a les pécheurs, mais il y a aussi les chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété. Verset 13, les vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, désastre errant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et dans ce contexte où l'apôtre enseigne les chrétiens à combattre, à tout faire pour les arracher du feu. Moi, je suis d'accord que tout ce qui est fait pour arracher ces Haïtiens des enchevêtrements dans lesquels ils se trouvent. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour que nous arrachions du feu les âmes qui doivent rencontrer Jésus? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de leçon à vous donner. Et c'est pas une prédication légaliste ou dure, mais c'est la vérité. Le jugement du grand jour va venir. Le jour des ténèbres, les gens vont être enchaînés éternellement. Obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et mes frères et sœurs, quand même, il faut que soyons sérieux. Vous savez, moi, je bénis Dieu d'être dans cette assemblée. Et combien j'apprécie de pouvoir justement avoir la liberté d'apporter tout le conseil de Dieu. Je suis persuadé qu'il y a des églises où j'aurais à prêcher déjà le peu que je viens de dire. Certains seraient partis. Je sais que c'est vrai. Parce que ça m'arrive d'aller dans des églises où les gens y partent quand je prêche. C'est pas bien. Mais dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus parle de la façon dont on l'a traité sur la terre. Vous connaissez cette parabole. D'ailleurs, c'est pas une parabole, c'est un enseignement. Dans Matthieu 25, il nous est parlé du jugement des individus lors du retour du Christ sur la terre. Vous connaissez cette parole, verset 25-32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, regardez, c'est beau ça, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, mais quand avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Mais quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et Jésus, dans ce texte, nous parle de la soif. Lorsque Jésus dit sur la croix, j'ai soif, il n'est pas en train de se plaindre ou d'attirer la pitié sur lui. Il est en train de nous enseigner une vérité spirituelle, c'est qu'il a toujours soif, la preuve, de voir des âmes sauvées, de voir des âmes bénies, de voir des âmes guéries. Et lorsqu'on ne fait pas ces choses, on va voir la suite, on est vraiment en danger. Cette parabole, cet enseignement peut paraître bizarre. On pourrait dire, ah bon, mais ça change de tout ce qu'on m'a enseigné. Moi, on m'a enseigné qu'on était sauvé par grâce. Et ce texte semblerait nous laisser croire qu'on est sauvé par les œuvres. Mais la foi, sans les œuvres, elle est morte. Et un chrétien qui ne fait pas les œuvres dans l'église où Dieu l'a placé, il est en danger. Et moi, je vous dis, dans cette église, on veut faire des œuvres, les œuvres de Dieu. Moi, si vous saviez comment j'ai à cœur de former des pasteurs, et je sais qu'il faut former des pasteurs, il y en a un qui est venu, un stagiaire qui est venu mardi, peut-être si le conseil est d'accord, on va le prendre comme pasteur en formation. Mais combien, vous savez que je parle jamais d'argent, mais combien je vous encourage à faire ce que Dieu vous demande, pas plus, pour qu'on puisse continuer à soutenir des œuvres comme le Niger, pour qu'on puisse soutenir des petites œuvres dans la région, pour qu'on puisse former des pasteurs, et pour pouvoir à faire d'autres choses, mes frères et sœurs. Ces choses-là nous montrent qu'il y aura un jour, le grand jour, des chrétiens qui vont se retrouver dans la détresse pour ne pas avoir pris au sérieux la parole de Dieu. Regardez la suite. Alors, c'est un mot que je ne supporte plus, ce mot. Regardez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa droite, retirez-vous de moi, maudit. Moi, rien que ce mot, ce seul mot, il serait écrit qu'une fois dans la Bible, il me fait peur parce que je sais ce que ça veut dire. Et je vous ferai remarquer que c'est Jésus-Christ qui en parle. Retirez-vous de moi, maudit. Et vous savez la suite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et je vous en supplie, frères et sœurs. Attention, ne tombez pas dans cette espèce de cursus d'œuvre, mais tombez dans la joie de faire ce que Dieu vous demande. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans l'Église? Vous avez choisi de venir dans cette assemblée. Merci, Seigneur. Et moi, combien je vous aime et combien je vous apprécie. Et justement, si j'aimais pas ces jeunes qui sont là sur l'estrade, qui sont pas encore sauvés, je vous dire, j'aurais certainement d'autres choses à prêcher de plus intéressant. Mais quand on aime les gens, quand on aime sa nation, quand on aime sa ville, quand on aime même ses ennemis, on veut qu'ils soient sauvés. Et quand on veut qu'ils soient sauvés, il faut prêcher la parole de Dieu. Vous avez envie d'entendre de la bouche de Jésus qui vous aura dit sur la terre, viens, viens, comme je vais conclure tout à l'heure, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Mais vous avez envie d'entendre dire de la même bouche, retire-toi de moi, maudit. Rien que ce mot, rien que sur la terre, un homme déjà, un homme qui maudirait quelqu'un, vous voyez, un homme qui dirait à quelqu'un, tiens, je te maudis. Rien que ça déjà, ça fait pitié. Rien que dans la bouche d'un homme, c'est vrai ou c'est pas vrai? Dans la bouche d'un homme, c'est un mot qui est vraiment malheureux. Mais dans la bouche du Dieu des cieux, quand même. Et il est là. Et il faut que nous nous appliquions sérieusement, mes frères et sœurs. Oui, vous entendrez, ça c'est clair, vous entendrez entrer béni ou vous entendrez retirez-vous de moi, maudit. C'est à vous de choisir, c'est pas Dieu. Ne faites pas l'intéressant comme quelqu'un un jour qui me disait « Ah ben moi, monsieur Gauche, Dieu choisira. » Mais je dis « Mais il y a longtemps qu'il a choisi. » Il y a longtemps, quand il est mort sur la croix, vous ne croyez pas qu'il a choisi la place que vous vouliez, devriez avoir. Ne riez pas avec la parole. Les justes iront à la gloire. Il le dit, regardez le verset, on n'a pas lu le verset 45. Et je leur dis, il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes ces fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Ceci, c'est Jésus qui parle, iront au châtiment éternel. Mais les justes, à la vie éternelle. Oui, il y aura des gens bénis, il y aura des gens maudits. Et ceux qui auront pris la malédiction, c'est bien qu'ils l'auront choisi. C'est Jésus, l'apôtre de l'amour, qui parle. C'est lui. Je vous cite quelques termes par lesquels la Bible parle de l'enfer. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai pensé le faire, je m'adresse à tous les internautes. À vous tous qui écouterez cette prédication, je vais vous demander quelque chose. Vous m'envoyez un mail. Et vous me dites, depuis combien de temps vous êtes converti, et depuis en tant d'années de conversion, combien de fois vous avez entendu une prédication sur l'enfer. Faites-le, s'il vous plaît. Sinon, je viendrai dans vos maisons, et ça ira mal. Alors, quelques termes qui parlent de l'enfer. Les temps de feu, flammes éternelles, fournaises ardentes, lieu où le feu ne s'éteint point, et le ver ne meurt point, lieu des pleurs et des grincements de dents, ténèbres du dehors, les peines d'un feu éternel, l'abîme sans fond, la ruine éternelle, les châtiments éternels, un lieu de tourment, lieu où les pécheurs boivent le vin de la colère de Dieu, étang ardent de feu et de soufre, lieu où les damnés sont enchaînés dans les ténèbres, obscurité des ténèbres. Enfin, j'ai relevé ces expressions. C'est un lieu, en tous les cas, où les gens, en ce moment, ceux qui sont en enfer, dans le lieu de tourment, attendent le jugement dernier pour être jugés. Le mot géhenne revient 12 fois dans le Nouveau Testament, dont 11 fois dans la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Pour décrire l'enfer, Jésus s'est servi du mot géhenne. Alors je vous le lis, ce qui était dans le dictionnaire. La géhenne était une vallée situé en dehors de Jérusalem, où l'on venait se débarrasser des cadavres d'animaux et de ceux des criminels non réclamés par leur famille, ainsi que des ordures et de toute la saleté de la ville. Un feu brûlait jour et nuit pour consumer ces immondices et les vers grouillaient au milieu de ces détritus. C'est véritablement un lieu où Jésus dit, Marc 9, 45, un ver rongeur ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Quand je vois qu'il y a un mois, même pas, on a fêté le petit Jésus. La façon dont on célèbre Noël dans notre pays ne peut amener aucune âme au salut. Aucune âme. Enfin, je le pense. Et la Bible emploie souvent la mort ou la seconde mort. La mort, ça désigne toujours la séparation du corps et de l'âme. Lorsqu'un homme meurt, il va soit au ciel, soit au paradis, soit dans un lieu de tourment. Et tous les morts ressusciteront. Là aussi, il y a des gens qui ne croient plus dans la résurrection. Ils croient dans le fait que l'âme est enlevée, mais ils ne croient pas à la résurrection des corps. La Bible parle de la résurrection des corps. Déjà Daniel 12, 2, ne le cherchez pas. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'opprobre éternel. Et la mort ne signifie pas que l'être humain est anéanti ou qu'il cesse d'exister. Tous les gens qui se suicident, les pauvres, ils doivent s'imaginer qu'après ils ne vont plus souffrir. Vous comprenez, je veux dire. Mais ça doit être une souffrance indescriptible. Les gens dans la douleur la plus infinie sur la terre, alors qu'ils ont toujours une lumière qui devrait briller. Pour se tourner vers Dieu, les gens ne s'imaginent pas qu'en commettant cet acte, ils vont se retrouver pour l'éternité sans aucune possibilité de se repentir. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Quand un homme meurt, il est ou sauvé ou perdu. Et ça, pour l'éternité. Et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais s'il n'y a pas d'œuvres, il y a un problème. Croyez-moi. Et le purgatoire n'existe pas. Des fois, les gens nouveaux me posent la question. C'est normal. Ils ont baigné dans une certaine religion et c'est tout à fait normal qu'ils nous posent la question. Le purgatoire, c'est une invention de la religion du XIIIe siècle. Ajoutée en plus avec des indulgences. Une honte payée pour que les gens sortent le plus vite possible du purgatoire. Pour être purifié plus vite. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et beaucoup de gens se sont détournés de Dieu à cause de cette affaire. La définition du purgatoire. État. Alors ça, c'est pas la doctrine biblique. État dans lequel les âmes des justes sorties de ce monde sans avoir suffisamment satisfait à la justice divine pour leurs fautes achèvent de les expier avant d'être admises à jouir du bonheur éternel. Je ne sais pas s'il faut le relire, mais vous pourrez le réécouter. S'il y en avait un qui avait bien besoin de la purification du purgatoire, ça aurait été bien le brigand, le criminel, sur la croix. Vous ne croyez pas que lui, il aurait besoin d'un petit séjour, hein? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est un criminel, un meurtrier. Imaginez-vous quelqu'un qui a tué votre fils, votre femme, votre conjoint, un de vos enfants. Imaginez-vous cet homme-là, un criminel, quand il a vécu en direct la croix. Il a tout d'un coup été bouleversé. Il a compris qu'il avait affaire au Dieu vivant. Et là, il fait une prière qui demande pas grand-chose. Le pauvre, il est conscient qu'il a peut-être pas intérêt à trop demander. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si vous croyez, vous qui écouterez cette cassette, que le purgatoire existe, vous allez avoir de grosses surprises, croyez-moi. Parce qu'il y a des gens, je l'ai entendu, qui se disent, mais moi tant pis, moi je vis ma vie, je vis dans le péché, je fais ce que j'ai envie, eh bien s'il faut passer un moment au purgatoire, c'est pas grave, moi j'ai donné de l'argent pour qu'après ma mort, eh bien on me fasse sortir le plus vite possible. Et quand on voit qu'on en est là, on est quand même loin de l'évangile. En tous les cas, tout ça, c'est grave. C'est une grâce d'être sauvé. C'est une grâce d'être ici ce matin et d'écouter la prédication de la croix. C'est une grâce jusqu'à ce que la trompette sonne. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4. En vérité, la première épître de Paul aux Thessaloniciens nous parle de l'avènement et la deuxième épître nous parle du retour de Jésus-Christ. Regardez. Les 1 Thessaloniciens chapitre 4, les chrétiens de Thessalonique étaient peinés, et c'est normal, par le décès de leur frère. Et voilà ce que Paul leur dit, inspiré par le Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » Et moi, de la part du Seigneur, je dis, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de l'enfer. « Au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, alléluia, avec le Seigneur. Consolez-vous donc les autres par ces paroles. Voyez mes frères et sœurs, la trompette va bientôt sonner. Moi je vous le dis, la trompette va bientôt sonner. Et heureux, comme dit Jésus, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. On le lit ensemble, Apocalypse 20, verset 4. Il faut lire ces textes et il vous faut les relire. Vous qui ne lisez pas la Bible, je vous en supplie, prenez des notes, reprenez ces textes, que ça vous redonne du courage de lire la parole de Dieu. Parce que le diable, il ne veut pas qu'on lise la Bible, il ne veut pas. Parce qu'il sait très bien que ça va nous interpeller, nous convaincre de justice et même de jugement. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ça vient bientôt. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Voyez, il précise bien que la résurrection des injustes aura lieu après le millénium. C'est ici la première résurrection. Et je comprends qu'il soit écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, pendant le millénium, il reste du temps à passer sur la terre pour les sauver. Parce qu'on va régner avec Jésus pendant 1000 ans. Je ne sais pas comment, ce n'est pas écrit. Bon, mes frères et sœurs, pourquoi ils sont là ces gens? C'est écrit ailleurs, dans l'Apocalypse 7, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Si vous voulez être sauvé, c'est pas en faisant ceci. Ah, moi je suis catholique et ah, je deviens évangélique, ça me convient, c'est différent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais c'est pas parce que vous allez changer de bocal que vous allez, croyez-moi, aller au ciel. Il faut passer par la repentance. Il ne faut pas adhérer à une nouvelle église, il faut passer par la repentance. D'où viennent-ils, dira Jean. Eh bien, l'ange répond, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et il y aura une deuxième résurrection. Alors là, le deuxième voyage, je vous assure que ce n'est pas marrant. Regardez, Apocalypse 20, verset 11. Ça, c'est tous les chrétiens qui n'auront pas été sérieux, qui n'auront pas fait les œuvres que Dieu leur demande et qui sont le résultat, en fin de compte, qui n'a plus de communion avec Dieu. Quand on ne fait pas d'œuvre, c'est le résultat qui a plus de communion avec Dieu. Ça, c'est clair. Apocalypse 20, c'est le grand trône blanc. Là, c'est plus la grâce, je vous le dis. Quel drame ce jour-là. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, oui, et le séjour des morts, là où sont les gens actuellement qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pourquoi la seconde mort? Parce qu'elle a été précédée de la mort physique. Ils seront tourmentés, dit le verset 10, au siècle des siècles. Les tourments éternels. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il est en train de régler des problèmes. Mais certains Corinthiens ne vont pas. Il le dit d'ailleurs, je le dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. Et c'est là qu'il leur dit cette partie du verset qui est citée là sur le mur de l'assemblée, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Écoutez-moi, pour que Dieu, soyons simples, pour que le Dieu du ciel et de la terre nous supplie d'être réconciliés avec lui, c'est que ça doit se passer très mal quand on n'est pas réconcilié avec lui. Il faut quand même le comprendre. Imaginez-vous que le président de la République supplie un clochard, je t'en supplie, sois réconcilié avec moi. Ça va mal se passer si le clochard ne se réconcilie pas. Mais là, ce n'est pas le président. Le président, c'est un homme comme vous et moi avec un titre et une fonction, heureusement. Mais mes frères et sœurs, le Dieu du ciel, quand il dit « je vous en supplie » à des chrétiens, soyez réconciliés. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chrétiens légers. Les chrétiens, la religion, c'est un plus dans leur vie, c'est un supplément. Vous savez, comme l'option sur la voiture nouvelle qu'on va acheter, c'est un plus, ah oui, c'est bien, ça me plaît ça. La clim automatique, ça me plaît. Mais pour beaucoup de gens, la religion c'est ça, c'est un peu de bien-être en plus, une option. La religion, c'est pas une option, c'est tout ou rien. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Et là, je voudrais maintenant être très sérieux. avec les croyants qui s'autorisent à pécher volontairement parce que Dieu est amour et parce que Dieu pardonne tout et parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors, est-ce que c'est vrai que Dieu pardonne tout et qu'il ne se lasse pas de pardonner? Oui, c'est vrai. Et c'est clair. Et béni soit le nom du Seigneur. Et c'est vrai qu'il s'autorise. Moi, j'entends des fois, mais monsieur, un jour, monsieur, il n'y a pas longtemps, un monsieur vient me voir, mais monsieur Go, ça, c'est bien ce verset. Expliquez-moi ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai dit, donc, vous donnez-moi l'explication, la vôtre d'abord. Et le gars disait, mais quand on est chrétien, on peut pécher, on n'est plus condamnable. Mais je savais qu'il allait me dire ça. Il est parti triste ce jour-là, ce monsieur. Parce qu'il s'attendait à ce que je le cautionne. Dieu pardonne. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner. Regardez avec moi, juste avant, dans la première épître de Jean. Je suis un peu long, mais il faut que nous écoutions toute cette prédication. Ne m'en voulez pas de prêcher 5 minutes de plus. Ça ne va pas, ça. Si vous m'en voulez pour 5 minutes, l'éternité, ça vaut peut-être qu'on s'y arrête un quart d'heure de plus ce matin. Croyez-moi. Dans 1 Jean au chapitre 1 et au verset 8, regardez ce qu'il dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, le chrétien qui dit « Ah, moi je ne pêche plus », regardez ce qu'il dit. « Nous nous séduisons, nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est pas en nous. Mes petits-enfants, on voit cette délicatesse, vous voyez, cette tendresse. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On peut commettre un péché. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai honte, ça m'est arrivé dans ma vie, de mentir. Eh ouais, vous me gardez quand même? Ça m'est arrivé de mentir quelques fois, de mentir. Et j'ai été voir la personne, j'ai dit, écoutez, je t'ai menti, je te demande pardon. Mais vraiment, qu'on est bête des fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ce n'est pas parce qu'on commet un mensonge, c'est parce qu'on commet un mensonge qu'on devient... quelqu'un qui pratique le mensonge, comme il est écrit dans la Bible, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Quand on commet un péché, il faut le régler. Voilà, je vous ai menti, je vous demande pardon. C'est ce que Jean est en train d'expliquer. Mais certains ont utilisé ce texte pour s'autoriser à vivre dans le péché volontairement. Et dans Hébreux chapitre 10, il nous est indiqué ce que Dieu pense des chrétiens qui vivent volontairement dans le péché. Lisons-le, soulignez-le. Moi, c'est un texte, il me fait frémir quand je vois la quantité de chrétiens qui s'autorisent à faire ce qu'ils veulent dans tous les domaines. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors moi, je fais ce que je veux. Et on n'a rien à me dicter. Je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de pasteur, j'ai besoin de personne. Si je veux aller dans un nightclub danser, j'y vais. Et moi, je dis maintenant aux gens, mais allez-y. Mais allez-y. Et je cite un exemple, et je pourrais vous citer bien des choses. Mais moi, quand je lis ce verset, eh bien, voyez, ça m'intéresse de me sanctifier. Hébreux 10, 26. Car, vous savez que c'est écrit aux Hébreux, aux chrétiens, si nous péchons, vous y êtes? Lisez-le. Il faut que tous on le lise. Car, si nous péchons volontairement, alors c'est bien après la conversion, ça, regardez. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quand on pêche volontairement, voilà ce que Dieu en pense. Vous vous dites, oh, c'est pas grave, je mens à ma femme, mais tous les jours parce qu'elle me, ça me convient bien. Vous dites, c'est pas grave. Dieu dit que vous foulez aux pieds le Fils de Dieu, que vous profanez le sang de l'Alliance et que vous outragez l'esprit de la grâce. Et ça, je crois que ça nécessite vraiment une repentance. Et alors que dans quelques minutes, nous allons prendre le pain et le vin, je voudrais m'adresser avec beaucoup de cœur. Si j'élève un petit peu ma voix, c'est peut-être pour éviter de pleurer. Je vous le dis vraiment. Si vous me connaissez, vous le savez. Et en parlant un peu sec, je me contrôle mes émotions. Sinon, j'aurais passé la prédication à pleurer. C'est vrai, là, je vous assure, c'est vrai. Mes frères et sœurs, dans quelques instants, on va prendre le pain et le vin. Vous qui avez été ignorants, vous que je n'ai pas bien enseigné, s'il vous plaît, repentez-vous. Ne vous autorisez pas à dire « c'est pas grave ». Vous voyez, des fois, on s'autorise plein de trucs. « Oh, j'ai pas envie d'aller au culte ce matin. » Dimanche dernier, c'était une... Vous aviez vraiment des excuses. Mais moi, j'entends de plus en plus de chrétiens. « Oh, ben moi, je viens quand je veux. » Mais voyez, tout ça, ça commence à... C'est un péché? Est-ce que c'est un commandement d'honorer le jour du Seigneur? Quand on ne peut pas, vous travaillez. Je vois M. Canon combien de fois il travaille. Mais mes frères et sœurs, ou d'autres, des infirmières, des docteurs dans l'église, frères et sœurs, est-ce que c'est normal de ne pas venir au culte sans aucune raison et de dire « moi je suis libre et je ne serai pas un légaliste ». Vous allez voir le légalisme, il n'est pas prêt de vous atteindre, ne vous inquiétez pas. Si vous parlez comme ça, il ne vous atteindra jamais. Mais mes frères et sœurs, je crois que nous avons pris un jour la décision de nous engager avec le Seigneur. Nous ne voulons pas faire partie de ces vierges folles qui vont rester scotchées sur la terre lorsque Jésus va enlever l'église. Vous avez envie de faire partie de ces vierges folles? Mais c'est ça les pleurs et les grincements dedans. Alors que nous avons un Dieu qui dit que la patience est notre salut. Moi, c'est un des versets qui me bouleverse. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais vous comprenez bien que ça va durer un moment, ça. La colère finira par nous atteindre. C'est écrit. 1 Pierre 3:20, il parle de la patience, je vous en ai parlé tout à l'heure, de Dieu qui s'est prolongé au jour de Noé. Vous savez que Dieu a mis du temps pour... Noé a mis beaucoup de temps pour construire l'arche. Ça paraît même très étonnant. Mais moi, je vais vous dire, c'est Dieu qui prolongeait sa patience. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Qu'est-ce que c'est ce temps qu'ils ont mis pour construire l'arche? Eh oui, moi j'ai la réponse. La patience de Dieu qui se prolongeait. Voilà. Romains 9, 22. C'est bien, je vois que personne ne regarde la montre. Mais c'est bien, franchement. Parce que ça aussi, ça me... Croyez-moi que parfois ça me fait de la peine. Romains, chapitre 9, verset. Il est parlé, le chrétien est comparé à un vase. Alors on va lire le verset 21. Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile ? Pour faire avec la même vase, la même masse, un vase d'honneur, un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulait montrer sa colère, à faire reconnaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. On s'y approche à ce moment. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alors, dans quel verset êtes-vous, au fait? Est-ce que vous avez votre prénom dans le verset 22 ou dans le verset 23? Prêt pour la perdition ou prêt pour la gloire. Ésaïe, le prophète, à un moment donné, il parle à ses contemporains. Il leur dit, mais en plus de cesser, de lasser la patience des hommes, vous vous autorisez à lasser la patience de Dieu. Il faut le faire. Il faut le faire. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. C'est un prophète qui parle, il dit au peuple de Dieu, mais quand même, vous devriez en avoir marre de lasser la patience des hommes. Mais ce n'est pas grave, en fin de compte, parce qu'en plus, vous lassez la patience de Dieu. Alors on arrive à la conclusion, dans Romains au chapitre 2. Dans Romains au chapitre 2, il nous est décrit le monde de l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça empire au niveau de la masse, mais l'état, ça n'a pas beaucoup changé. Regardez, il parle aux chrétiens qui jugeaient ceux qui commettaient des trucs qui n'étaient pas bien, ils faisaient autant pourtant. Alors regardez ce que Paul dit, Romains 2, verset 3. « Penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Regardez bien, tous ceux qui ne vont pas prendre la Sainte-Seine tout à l'heure, écoutez bien de la part du Seigneur. Cette expression, elle est biblique, écoutez bien. C'est pas écouter Monsieur Go, c'est écouter la parole de Dieu. Moi, c'est que vous m'écoutiez à moi, ce n'est pas un problème. Mais écoutez bien ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? La longanimité, c'est un mot très très fort qui exprime la patience de Jésus sur la croix à souffrir. Ne reconnaissant-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu, elle ne nous pousse pas à attendre. La bonté de Dieu, elle nous pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, c'est-à-dire qu'un cœur qui ne veut pas changer, tu t'amasses, alors regardez l'expression, un trésor, moi je ne veux pas savoir ce que c'est ce truc, un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 10, honneur, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, etc. Mes frères et sœurs, ce texte, il est clair. Qui, ce matin, avant de prendre le pain et le vin, est-ce que vous pouvez dire, non, je ne méprise pas l'appel de Dieu ce matin? Vous qui n'êtes pas baptisés, ou les chrétiens qui vous autorisez à cette légèreté, est-ce que vous voulez ce matin dire, oui, ta bonté, par cette prédication, peut-être mal présentée, ça je suis sûr, mais ce n'est pas grave, ça suffit quand même. Est-ce que ça ne me pousse pas à la repentance? Ce jour va paraître, le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. Vous croyez que Dieu va se tromper? Vous croyez que Dieu se trompe entre cette histoire de ciel et d'enfer? Ne méprisons pas la richesse de sa bonté. Frères et sœurs, notre temps est limité sur la terre. Combien de temps nous reste-t-il? Combien de temps reste-t-il à l'Église? Qu'est-ce que c'est notre priorité, frères et sœurs? C'est quoi votre priorité? Qu'est-ce que c'est le plus important? Répondez-vous à vous-même. Répondez-vous, s'il vous plaît. Quelle est la chose, pour le moment, le plus importante dans votre vie? Est-ce que ce sont les choses temporelles et terrestres? Ou est-ce que ce sont les choses éternelles et spirituelles? Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et notre esprit est limité parce que nous ne voyons pas dans l'invisible, aux choses éternelles. Mais l'enfer existe. Et un chrétien, lorsqu'il prend le baptême, il a décidé d'avoir la vie éternelle. Il devient concitoyen du ciel. Avant d'être des Toulousains ou des Calédoniens, vous êtes des concitoyens des cieux, membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est vrai que sur la terre, je l'ai marqué sur mes notes, il faut bénir Dieu pour toutes ses grâces. Bénir Dieu pour moi, je bénis Dieu pour ce que j'ai matériellement. Mais le plus important, c'est le salut. C'est le salut de ces jeunes qui sont sur l'estrade. J'espère que c'est pareil pour vous. Le ciel et l'enfer à perpétuité. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Juste une dernière pensée, il faut que je l'apporte. La question, mais comment se fait-il qu'un Dieu tant d'amour, plein d'amour, peut envoyer quelqu'un à l'enfer? Vous savez, la Bible nous enseigne que c'est Dieu, c'est la Bible qui répond en plus, que Dieu a créé le ciel et que Dieu a créé l'enfer. Par contre, Dieu a tout fait pour que les gens n'aillent pas en enfer. C'est l'homme qui a choisi ça. L'enfer, au début, il a été préparé pour le diable et pour les anges. C'est écrit dans Matthieu 25. Mais écoutez-moi bien, je termine avec ça pour qu'on prenne la Sainte Cène avec beaucoup d'affection vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour nous éviter l'enfer? Il nous a donné une conscience à chacun. Vous avez tous la pensée de l'éternité dans votre cœur. C'est déjà bien. Il a planté la croix devant la porte de la perdition. Ses bras sont toujours ouverts. Vous le savez? Pour nous dire, arrête-toi. Cette prédication, j'espère qu'elle arrêtera des milliers de pécheurs pour qu'ils n'aillent pas à l'enfer. Sur cette croix, il tend toujours les bras. Et il vous parle ce matin au travers de son serviteur. Si maladroit que je puisse être, je sais que Dieu veut parler à tous ceux qui ne vont pas se lever tout à l'heure et que ça soit une dernière fois que vous ne vous leviez pas. Dieu a donné sa parole. Ce n'est pas une bénédiction d'avoir la parole de Dieu? Quelqu'un oserait-il dire, oh, moi la Bible, ne vous autorisez pas ça. Malheureux seriez-vous. Il nous a donné la parole, il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pas une bénédiction que le Saint-Esprit soit sur la terre pour convaincre les hommes de péché? Dieu fait en sorte que sa parole soit prêchée. Est-ce que c'est pas une grâce d'avoir l'autorisation de prêcher la parole de Dieu? Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mes frères et sœurs, je voudrais, pendant que quelques frères viennent, s'il vous plaît, choisissez, venez quelques frères préparer la Sainte Cène. Mais je voudrais qu'on se recueille maintenant. Vraiment, s'il vous plaît, ne regardez pas la montre. L'éternité, votre éternité, les pécheurs qui êtes ici ce matin, les incrédules, les ados, les jeunes, les enfants des chrétiens, certains conjoints, qu'est-ce que vous attendez? Je vous le dis de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous repentir? La bonté de Dieu, ce n'est pas moi qui vous pousse à la repentance. Je ne peux pas vous pousser à la repentance.
J'en suis incapable. Mais l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus sur la croix, sa longanimité ne vous pousse-t-elle pas à la repentance? Vous allez rester comme ça? Vous allez endurcir votre cœur? Vous allez vous retrouver devant votre télé, devant votre PlayStation, devant votre site internet? Et oubliez, le diable, je vous assure que le diable, il fera tout pour que vous oubliez tout de ce que vous avez entendu. Tout. Et le Saint-Esprit l'a tout fait aussi, pour que vous entendiez sa voix. Combien je demande aux chrétiens, déjà même à leur place, de se lever avec beaucoup de cœur et de remercier Dieu pour la gloire éternelle. Les noces de l'agneau, oui, heureux êtes-vous, vous qui aurez part à la première résurrection. Maudit serez-vous si vous n'acceptez pas de vous repentir. Je vous le dis parce que Jésus m'a demandé de vous le dire. Les ados qui êtes sur l'estrade, vous qui ne vous convertissez pas, vous attendez quoi? Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Vous les chrétiens qui acceptez de pécher, qui regardez peut-être des saletés à la télé. Si vous péchez volontairement, vous outragez le sang de l'Alliance. Mes frères et sœurs, prenons le pain et le vin avec une infinie reconnaissance d'avoir pu rencontrer sur la terre le Seigneur qui pardonne les péchés. Et vous qui restez assis, venez me voir s'il le faut, pour vous instruire pour le baptême, pour votre conversion, pour votre repentance. Tant pis si j'ai 50 visites, tant pis, tant mieux. Frères et sœurs, amis, voulez-vous partir dans l'éternité, dans les tourments éternels? Levez-vous, frères et sœurs, je vais prier. Je vais prier pour ceux qui se lèvent, je vais prier pour ceux qui vont rester assis. Je voudrais que ce moment soit le moment le plus fort du culte, parce que c'est vous qui répondez à Jésus. Ce n'est plus la parole qui est prêchée, c'est vous qui lui parlez, dans votre cœur. Repentez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes dans le péché, dans la tiédeur, vous qui êtes dans l'apitoiement, repentez-vous, je vous en supplie. Il est à la porte. Il est à la porte, Jésus. Vous qui n'avez plus de communion, vous qui n'lisez plus la Bible, vous qui ne priez plus, vous qui n'avez plus le fardeau des âmes, repentez-vous. La repentance, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut faire à un homme. C'est une grande bénédiction. Le diable, il nous la présente comme un effort pénible. La repentance, c'est une grâce. Notre Dieu, tu as vu, Seigneur, mon cœur. Tu as vu, Seigneur, peut-être mes maladresses pour présenter ta parole. Pardon, Seigneur, si j'ai été maladroit. Pardon vraiment. Donne-moi cette intelligence, cette sagesse pour prêcher comme toi tu l'aurais fait. Mais Seigneur, que dans cette ville de Toulouse, l'Église soit un feu. Que ce matin, des cœurs froids soient réchauffés par ton onction. Que tous nos enfants qui n'ont pas encore cédé à la croix se convertissent maintenant. Seigneur, merci d'avoir institué la Sainte Cène. Fallait-il vraiment que tu sois plein d'intelligence pour instituer la Cène et nous rappeler par ce petit peu de vin et par ces morceaux de pain ton corps brisé, ton sang versé. Fallait-il que ta grâce veuille nous atteindre pour permettre ça. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Amen.